À l'Outaouais maintenant, voici le grain de sel à Michel.
Wow, attends un peu là, comment tu dis ça là?
C'est pas de long, grain, mais ça.
Non, là, j'accumule, mais what's up, mais que ça, va pas être beau à voir.
C'est l'heure de retrouver Michel Langevin. Salut Michel!
Salut Mathieu!
Écoute, j'ai entendu ce matin ton entrevue avec la fille du couple Ménard, mais j'ai entendu Paul Oud aussi en fin de semaine, samedi plus précisément. Je ne sais pas s'il l'a fait dimanche, mais samedi, il était avec Chantal Ménard. Elle a éclaté en sanglots. Écoute, c'est pas compliqué, je t'ai enragé dans ma voiture en entendant ça.
Oui, écoute, il faut prendre ça avec un certain recul parce que les sanglots, les pleurs, dans son cas, puis dans leur cas, c'est tout à fait normal. C'est comme, Mathieu, si demain matin, tu disais à quelqu'un, fais attention quand tu mets tes mains là, parce que, sais-tu quoi, ça se peut qu'il y ait une brique qui tombe ses doigts. Puis la personne te regarde dans les yeux, puis elle continue à mettre ses mains là, puis ton fils, ta fille, ou qui que ce soit, continue à te regarder dans les yeux, puis il met ses mains là, puis il défie un peu ou il ne tient pas compte vraiment de ce que tu dis. Puis la première chose que tu sais, c'est que non seulement la brique est tombée, mais ça lui a coupé le bras au complet, pas juste les doigts.
Ouais.
Fait que comment tu réagis quand tes parents, quand t'es proche d'un enfant qui te défie comme ça et qui t'écoute pas, tu trouves ça triste. Voyons donc, là, il est amputé, il a perdu son bras parce qu'il m'a pas écouté, puis pourtant j'avais été clair, j'y avais dit. C'est un petit peu comme ça qu'ils sentent eux autres par rapport à la situation qui touche leurs parents. C'est-à-dire que tel départ, écoute Mathieu, c'est la journée où ils s'en revenaient au Canada après une belle croisière.
Mm-hmm.
Eux autres, ils devaient revenir dans les heures qui suivent. Il y a un cas de coronavirus qui se déclare sur le bateau, ils barrent les portes. Tu dis, ben voyons donc, ils n'ont pas encore le coronavirus. Mais tu dis, écoute, s'ils les laissent sortir, là, mettons qu'il avait été de plus grande prudence, puis qu'il avait sorti les gens qui n'avaient pas le virus, il aurait probablement sauvé beaucoup de monde. Puis je dis pas que tout le monde va mourir, c'est pas ça, mais éviter tous ces problèmes-là, toute cette contagion-là sur le bateau, ça nous semble évident. Et elle, ce qu'elle a dit, c'est que « Allô, quelqu'un, es-tu Canadien, le consulat, y a-tu le ministre, y a-tu quelqu'un qui peut nous aider? » Parce qu'ils vont le prendre, ils ont 70 ans et plus, ils vont finir par le prendre s'il reste là le coronavirus. Puis ils ont fini par le prendre.
Ouais.
Fait que finalement, tout ce qu'ils ont demandé qui se passe, c'est pas passé, puis tout ce qu'ils avaient peur qui arrive est arrivé.
Mm-hmm.
Je te comprends dans ta frustration, je le suis moi-même, mais eux autres, c'est la réalité. Et là, Mathieu, imagine-toi, tes parents qui sont âgés 70 plus sont à l'autre bout du monde, au Japon, dans une chambre d'hôpital. Ça te donne rien d'aller là, tu pourras pas les voir. Tu sais pas quand est-ce qu'ils vont pouvoir revenir, parce que tant qu'ils n'ont pas testé positif, ils peuvent pas quitter le pays là-bas. Puis pendant ce temps-là, tu regardes les nouvelles, t'es chez vous, t'es frustré, t'es peiné parce que tu dis, ben coudonc, tu sais, veux pas, là, dans sa tête, elle doit se dire, j'espère qu'ils s'en sortent, mais ça se peut qu'ils s'en sortent pas.
Oui, c'est une réalité,
ou un des deux, ça se peut qu'ils s'en sortent pas, Mathieu. Fait que là, tu regardes les nouvelles, puis tu vois que les États-Unis, eux autres, virus, pas virus, tout le monde est dans l'avion, puis tout le monde s'en tourne aux États. Elle demande au Canada de faire la même chose. Le ministre Champagne a appelé ses parents pour leur dire quoi? Pour leur dire, ça a l'air que moi, je vais prendre soin de vous comme si vous étiez mes parents. Fait que c'est comme le néant, c'est comme une boule d'émotion qui vient d'éclater parce que on a demandé qu'il se passe des choses auparavant pour toutes sortes de raisons. On ne peut pas le faire. Puis là, quand je te disais au début de l'entretien, il faut relativiser aussi, relativiser tout ça, bien, il faut prendre un certain recul, me mettre dans la peau du ministre aussi, là. Puis il ne peut pas tout changer, là. Il ne peut pas arriver là-bas, lui, tant c'est vous, je suis le ministre du Canada, là. Moi, là, je m'en viens chercher tout le monde, puis c'est moi qui décide. C'est pas comme ça que ça se passe non plus. Il y a des intervenants en santé, il y a des spécialistes en santé. On a tous l'impression que c'est une crise qui a été mal gérée, mais ça, c'est l'impression qu'on a, nous autres.
Mm-hmm.
Maintenant, d'un point de vue scientifique, c'est peut-être autre. Puis j'espère que ce matin, c'est entendu le commentaire de Rochelette, il mettait des hypothèses sur comment le ministre a pu prendre une décision pareille. J'espère que la dernière des options que Roch a évoquées, c'était pas celle-là. C'est-à-dire que finalement, 250 Canadiens sur un bateau, c'est
ouais.
peut-être la meilleure des choses qui reste là-bas pour pas ramener ça au pays. J'espère que c'est pas comme ça qu'on a pensé. Mais tout ça pour te dire que c'est très triste de voir ce qui s'est passé. C'est comme si on l'avait annoncé.
Mm-hmm.
Ce comme si on avait dit, c'est un incubateur, c'est une place pour développer le virus. Puis finalement, tout ce qu'on appréhendait arrive.
Je te dis, je suis sans mots. J'étais enragé en fin de semaine. Surtout que, bon, évidemment, tu sais, il n'y a pas juste ça dans la vie, mais tu sais, quand tu regardes Justin Trudeau, là, règle pas les trains, règle pas le coronavirus, là, il vient d'annuler les Antilles dans ce coin-là. Le ministre, Louis-François Champagne, était quelque part en Afrique. Écoute, c'était le député d'Arthabasca ou du centre du Québec, Alain Reyes, l'ancien maire de Victoriaville, qui était plus de service avec la famille Ménard que le propre député d'Allermeur.
Oui, mais plus de services dans le sens que oui, tu sais, c'est facile, là, parler au téléphone, puis réconforter, puis. Mais dans le concret, là, faire bouger des choses sur un bateau au Japon, c'est pas si facile qu'on pense.
On s'entend là-dessus.
Même si on est le premier ministre du Canada, là, on s'est bien rendu compte, là, avec l'histoire d'avion, là, en Chine, que ça vaut ce que ça vaut. Moi, Mathieu m'a dit ça de même, puis je sais que c'est un petit peu de dérision, de démagogie, mais. Je lisais en fin de semaine un dossier sur les punaises de lit à Hull. Il y a un auditeur qui m'a envoyé un très bon courriel qui me dit « Michel, arrête de freaker sur le coronavirus. Ils sont même pas capables au Canada d'éradiquer les punaises de lit dans un édifice. Comment veux-tu qu'ils viennent à bout de contrer le coronavirus? »
Ouais, ça boucle la boucle pour ce sujet-là. Autre sujet, les cégeps. T'as vu le palmarès en fin de semaine? On est pas pire pour reprendre une vieille blague de hockey quand tu retournes le classement de bord.
Écoute, c'est sûr que c'est pas nos cégeps les plus performants. On est bon en génie civil. Ça avait sorti la semaine passée, ouais, sur le palmarès établi par le Journal de Montréal. Puis là, en fin de semaine, un autre article qui va encore plus loin. Ça touche pas nécessairement la classification des cégeps par région. Là, c'est qui est le meilleur, c'est qui est le plus fort, puis mon père est plus fort que le tien. C'est pas ça. C'est plutôt d'apprendre que 35 % des étudiants qui s'inscrivent au cégep, Mathieu, complètent pas leur diplôme dans la matière ou dans les délais prévus initialement. Fait que ça t'en dit beaucoup sur le cégep. Puis moi, j'ai bien des questions. D'ailleurs, on a une demande en bonne et due forme là, qui est partie pour le cégep de l'Outaouais pour avoir une entrevue demain matin là-dessus pour essayer d'expliquer ça. Tu sais, un cégep, là, c'est la préparation à l'étape suivante, dans bien des cas, l'université. Sinon, c'est une formation professionnelle qui donne accès au marché du travail. Je sais pas pourquoi, mais on dirait que les jeunes s'inscrivent au cégep sans trop savoir vraiment ce qu'ils veulent faire dans la vie. Mm-hmm. Puis, j'ai envie de dire que c'est un peu normal. Tu sais, moi, quand j'ai commencé au cégep, je sais pas pour toi, là, mais j'ai pris un cours en sciences pures. Dans ce temps-là, là, j'étais encore midget de A au hockey. Moi, dans ma tête, le hockey, c'était plus important que l'école.
Je comprends.
Ben, je me suis vite trompé, je me suis vite rendu compte que c'était pas correct. Puis, j'ai fait un an de sciences pures pour ensuite sacrer mon camp à l'école, au Collège Algonquin à Ottawa, où j'ai fait mon cours en journalisme. Puis là, après ça, ben, j'ai lancé ma carrière à la radio. Moi, j'ai été chanceux, je suis sorti de l'école, j'avais un travail, puis j'ai été dans ce que j'ai étudié. Mais il y en a combien de jeunes qui, quand ils arrivent au cégep, là, ouf, ça danse d'un pied, ça saute sur l'autre, ça sait plus trop. L'université, je sais pas, ça coûte combien l'université? Ça coûte cher? C'est-tu long? On dirait qu'il y a beaucoup d'interrogations. Il y en a qui sont plus déterminés que d'autres. Mais est-ce que le cégep est une bonne préparation à l'université? Est-ce qu'il faudrait pas revoir la façon de faire? Parce que à 35%, là, c'est un sur trois qui ont un parcours, mm-hmm, puis qui se rendent à l'université. Puis, c'est-tu drôle, Mathieu? Moi, là, j'ai parlé avec pas mal de parents. Les gens, là, les jeunes, ont réussi leur cégep dans bien des cas. Mais quand ils sont allés à l'université, là, ils n'étaient pas prêts. Ils n'étaient pas prêts plus qu'il faut non plus. Fait que, dans le fond, c'est quoi le cégep? Ce serait pas mieux de sauter tout de suite à l'université tant qu'à faire ça, tant qu'à avoir un taux de réussite à 35% pour les matières envisagées dès le départ. Tu sais, je me pose bien des questions. Puis comment on peut aussi imposer à une jeunesse de savoir très tôt quoi faire? Puis Roch Cholette, ce matin, j'ai bien aimé son commentaire sur l'orientation. Je trouve que c'est une question qui est si importante. Toi, Mathieu, à 17 ans ou à 16 ans, savais-tu qu'est-ce que tu voulais faire?
Oui, moi, je le savais.
Oui.
J'ai pas tatawiné au cégep. J'ai pas tatawiné au cégep.
C'est
mais,
ça.
Mais tout de même, tu sais, j'ai eu des enfants par la suite, puis, tu sais, est-ce que le cégep est encore adapté? Moi, je radote toujours la même affaire. Est-ce que philo est encore un cours adapté aux années 2000? On donne le même cours qu'en 1967.
Oui, il y a bien des choses à revoir. Puis l'autre réalité qui est plus contemporaine, c'est-à-dire qu'on le dit partout, là, il y a une pénurie de main-d'œuvre dans plein de secteurs, dans plein de marchés. Puis là, bien souvent, les employeurs, ils se retournent vers les étudiants. Fait que là, tu fais travailler des étudiants presque à temps plein ou à temps plein s'ils le veulent, en plus de leur école. Puis dans bien des cas, ça mène à des emplois qui sont quand même intéressants. Mm-hmm. Fait que les jeunes ne sentent plus autant le besoin d'étudier. C'est plus, ça devient plus le fun pour eux autres d'aller travailler parce qu'ils ont de l'argent dans les poches. Puis le travail est pas si pire. Puis dans la conjoncture actuelle, tu peux même augmenter, tu peux même demander une augmentation de salaire à ton boss. Puis tabarouette, il va te dire oui. Nous autres, dans notre temps, il n'y en avait pas de job. Fait que quand tu venais à bout d'en trouver une, tu y faisais attention, puis tu n'osais surtout pas demander une augmentation, parce que là, il se serait tourné, il t'aurait remercié, puis il y aurait pris un autre à côté, puisqu'il y avait une liste d'attente pour les emplois qu'il y avait disponibles. Ouais. Fait que c'est tout ça qui est le contexte actuellement. J'espère vraiment avoir des explications des experts d'éducation pour interpréter ces chiffres-là. Moi, je trouve ça très inquiétant.
On te souhaite ça demain. Merci. Bonne soirée, Michel. Bonne émission demain, 5h30.
Salut mon vieux, bye bye Mathieu.
Salut Michel, Michel Langevin. Demain matin, il sera en onde 5h30 avec toute l'équipe.